Vous écoutez, on lit pour vous.
Texte d'opinion. OK. Femme. La presse. Recherche. Francine Thériault. Une équipe de rêve. Un texte d'Alexandre Pratt. Paru le 24 mars 2026 dans la presse. Tout a commencé par une simple conversation de corridor entre une infirmière et une sage-femme. Loin. Très loin d'ici. Là où la carte devient blanche. À Inukjuak. Sur les rives de la baie d'Hudson. Le résultat, 2 ans plus tard, est le match de hockey le plus improbable auquel j'ai assisté. Les Oulouites contre les Palettes Roses. Des hockeyeuses amatrices du Grand Nord contre d'autres des Laurentides, devant des centaines de spectateurs qui ont payé leur billet vendredi le 20 mars 2026 à l'aréna de Sainte-Agathe-des-Monts. Une soirée de rire, de buts, d'accolades. Il y a eu des chants de gorge aussi. Une finale disneyesque. Et en clôture, une tablée digne des plus beaux buffets des histoires d'Astérix. Tout a commencé donc par une conversation entre une infirmière et une sage-femme. L'infirmière s'appelle Karine Bernard. Elle se rend environ 20 semaines par année dans le Grand Nord. « Je travaille présentement sur la tuberculose qui est en éclosion dans la majorité des villages du Nunavik. » Lorsqu'elle revient chez elle, dans les Laurentides, elle joue au hockey avec les Palettes Roses, cette formidable équipe dont j'ai raconté le voyage épique en Europe il y a quelques années. Karine désirait savoir si les femmes pouvaient jouer au hockey à Inukjuak. Après tout, il y a un aréna à 20 minutes de marche de la clinique. Elle a posé la question à sa voisine de bureau, Brenda Epu Kokapik. « Bien sûr que c'est possible », lui a répondu la sage-femme. « La preuve ? Elle-même avait longtemps représenté l'équipe féminine du village, les Oulouites. Brenda et moi, on a tout de suite connecté à cause du hockey, raconte Karine, qui s'est aussitôt mise à rêver d'un match entre les Oulouites et les Palettes Roses. Je me disais, hey, ce serait malade. Brenda partageait son enthousiasme, sauf que le rêve a vite rencontré la réalité. Plus de 1500 kilomètres séparent Inukjuak de Sainte-Agathe-des-Monts. Entre les deux, aucune route. La seule option, c'est l'avion. Vous l'aurez deviné que le billet coûte pas mal plus cher qu'un trajet en voiture entre Saint-Sauveur et Mont-Tremblant, même à 1,89 $ le litre d'essence. Le projet est resté un rêve pendant 2 ans. Jusqu'à ce jour, en novembre 2025, où Brenda est allée voir Karine avec le sourire fendu jusqu'aux oreilles. « Karine, Karine, on a les sous !»« Les sous ?» « Oui, l'argent nécessaire pour prendre l'avion jusqu'à Montréal. » Les femmes de la communauté se sont mobilisées et ont convaincu la société Makivik de financer leur déplacement. C'était l'étincelle dont le projet avait besoin. Au sud, les Palettes Roses se sont activées elles aussi. Elles ont décidé de rendre l'entrée payante. Les fonds allaient servir à financer un organisme de charité des Inuits, ainsi que le programme des mini-palettes qui permettent à 114 jeunes filles des Laurentides de jouer au hockey à un coût très abordable. Plusieurs joueuses des Oulouites n'avaient pas chaussé de patins depuis longtemps. C'était notamment le cas de Brenda qui a cessé de jouer il y a 15 ans. Les femmes ont donc formé un club de marche et multiplié les entraînements en vue du grand match. « Le hockey féminin n'est pas très structuré là-bas », explique Karine. « Tout le monde sait un peu jouer, mais il n'y a pas de coaching. En plus, l'aréna n'est pas réfrigérée. Tout dépend de la température extérieure. Ça prend de l'eau, qui est transportée par camion. Souvent, il en manque pendant plusieurs jours. Pas juste pour faire la glace de l'aréna », précise-t-elle. « Pour les besoins de base. » Vendredi, 17h45, plus qu'une demi-heure avant le début de la partie. Une odeur de hot-dog flottait dans l'aréna. « On en a préparé 400 !» s'emballait René-Claude Gélina, la Palette Rose chargée de la logistique pour la soirée. Sa coéquipière, Véronique Dubé, m'a entraînée dans les coulisses jusqu'au vestiaire que partagent les deux équipes. Le voyage des Inuits a été plus compliqué que prévu, m'explique-t-elle. Un blizzard a forcé le report de leur vol d'une journée. Le lendemain, il n'y avait que 9 sièges disponibles pour 12 joueuses. Les 3 autres sont arrivées à Montréal 2 jours plus tard, tout juste avant la partie. Je me suis assis à côté de Brenda, qui finissait de lacer ses patins. Je suis tellement excitée, a-t-elle confié avec un grand sourire. Quand j'étais plus jeune, je jouais 2 ou 3 fois par semaine. Nous participions même à un grand tournoi chaque saison, la Whale Cup. Les aventures des Ulwits sont d'ailleurs racontées dans un documentaire. The Ulwit Champions of the North. Mais ça fait presque 15 ans que je ne joue plus. J'ai arrêté car j'avais trop de responsabilités. Mais j'aurais dû continuer parce qu'après, j'ai commencé à faire du diabète. À sa gauche, la capitaine des Ulwit, Rita Ninjuk, était tout aussi fébrile. « Moi, je n'ai jamais arrêté, » dit-elle. « Je joue encore une fois par semaine avec les jeunes filles. J'adore le hockey. » Avant de quitter le vestiaire, les Inuits ont demandé aux joueuses des 2 équipes de former un cercle. Le temps d'une prière. Puis les joueuses se sont engouffrées dans le corridor jusqu'à la glace. Environ 300 spectateurs les ont accueillis avec des cris, des clochettes et des pancartes. Les mini-palettes étaient très bien représentées. Beaucoup de parents, amoureux, enfants et amis des palettes roses s'étaient aussi déplacés en grand nombre. « Ça me fait chaud au cœur », a lancé Karine Bernard à la foule, avant de passer le micro à Brenda et Rita, qui ont entamé leur discours en Inuktitut. Les spectateurs qui ne comprenaient pas un mot ne savaient pas trop quand réagir. Rita est passée à l'anglais pour sa toute dernière phrase « Vous êtes chanceux d'avoir de l'eau courante quand vous la désirez. » Ça pince. On a beaucoup à apprendre de leur réalité, c'est désolé Karine. Je venais tout juste de croiser un sympathique représentant de la députée locale, la présidente du Conseil du Trésor, France-Hélène Duranceau. J'espère que les messages seront relayés aux autorités compétentes. Des Ulwits ont enchaîné avec des chants de gorge, puis le spectacle le plus attendu, le match de hockey, a commencé. Quelques palettes roses dont Karine et Véronique s'alignaient avec les Ulwits, beaucoup plus petites que leurs adversaires. Les palettes roses ont rapidement pris l'avance, 3-0. Rita a brisé la glace pour les Inuits avec quelques secondes à jouer dans la première période. Tous les spectateurs se sont levés d'un bond. Elle a eu le droit à une belle ovation. Même sa gardienne a traversé la patinoire pour la féliciter. Le pointage s'est resserré. Avec 1 minute à jouer, les palettes roses ont pris l'avance 7-6. Puis, sur la toute dernière action de la partie, Rita a réussi le but égalisateur. Tout le monde souriait, tout le monde célébrait. Les haut-parleurs crachaient. Ça fait rire les oiseaux de la compagnie créole. Les joueuses des 2 équipes dansaient. La fête s'est poursuivie jusqu'à la fermeture de l'aréna à 23h. Quelques joueuses se sont retrouvées le lendemain pour une partie sans pancarte ni clochette, ainsi que pour un festin préparé par les Inuits. Au menu, de la perdrix, du caribou, de l'omble de l'Arctique. Le tout coupé avec le couteau traditionnel des femmes d'Inukjuak, l'Ulwit, qui a inspiré le nom de l'équipe. Pas certaine que le boucher du métro de Sainte-Agathe aurait pu me faire vivre une telle expérience, m'a écrit après coup la palette rose Véronique Dubé, enchantée par sa fin de semaine. Ce sont des moments de partage, vraiment surprenants et émouvants. Je ne verrai plus jamais des images du Grand Nord de la même façon. Vive le hockey! C'était Une équipe de rêve, un texte d'Alexandre Pratt, paru le 24 mars 2026 dans la presse.
Quand l'enseignement supérieur devient sujet de recherche. Un texte de Jean-Benoît Nadeau, paru le 24 janvier 2026 dans Le Devoir. Les universitaires s'intéressent à tout, mais en francophonie, on en trouve encore assez peu qui étudient l'enseignement supérieur comme tel. C'est la mission que s'est donnée Olivier Bégin-Caouette, professeur à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université de Montréal, est titulaire de la chaire de recherche du Canada en enseignement supérieur comparé et international. Lancée officiellement en décembre 2025, cette toute nouvelle chaire étudie les transformations mondiales du secteur. Foncièrement mondialiste depuis toujours, l'enseignement supérieur est marqué depuis un siècle par une très forte concurrence économique et symbolique à la grandeur de la planète. Chaque établissement, chaque pays, cherche à attirer des étudiants étrangers, des professeurs, à développer des brevets, à exporter des programmes d'enseignement. En 2022, le Canada estimait la part économique mondiale des étudiants étrangers à plus de 37 milliards de dollars, dit Olivier Bégin-Caouette. Sur le plan symbolique, les établissements se concurrencent également pour les meilleures notes aux classements internationaux et l'embauche des professeurs les plus cités. Chaque pays a sa dynamique propre, qui est influencée par les pressions concurrentielles entre les institutions et les pays. Mais il n'y a pas que la concurrence dans le secteur. L'enseignement supérieur est marqué par une très forte circulation des idées et des liens de coopération et de collaboration. On ne peut donc pas comprendre ce champ d'études sans examiner les relations internationales qui se construisent. Le système universitaire québécois ne se serait jamais autant développé sans ses liens internationaux avec la France, la francophonie, l'Agence universitaire de la francophonie, etc. On reçoit et on donne. Mieux comprendre. En visioconférence depuis Guadalajara, où il bâtit un réseau inter-américain d'études sur l'enseignement supérieur, le chercheur nous invite à prendre conscience de ce qu'il appelle notre ignorance comparative en la matière. On a tendance à croire que ce qui se fait chez nous se fait ailleurs, dit-il. Or, il serait avantageux pour le Québec d'étudier les réussites d'autres pays, en particulier ceux de la Scandinavie, et d'analyser ce qui fonctionne bien dans son propre système. Certes, les universités québécoises n'ont jamais profité de liens aussi forts que ceux qu'entretient l'Ontario avec les États-Unis. Mais le Québec s'est doté de fonds de recherche particuliers qui soutiennent le financement d'équipes ou la relève professorale. Les jeunes professeurs qui bénéficient de subventions spéciales ont tendance à super-former dans les fonds fédéraux, dit Olivier Bégin-Caouette. Un autre exemple vient de la structure des droits de scolarité. L'un des effets est que le Québec est la province qui recrute le plus d'étudiants internationaux de niveau doctoral, ce qui contribue très fortement à la quantité de recherches produites. Il cite enfin le cas des cégeps, qui ont développé la formation technique par compétences. C'est reconnu comme un modèle du genre que la Fédération des cégeps a implanté au Pérou, en Bolivie, au Sénégal, entre autres. Une société du savoir doit s'appuyer nécessairement sur un système d'enseignement efficace, compétent, équitable, accessible. Il faut donc étudier comment s'influence la gouvernance, le financement, l'accessibilité, les conditions de travail et d'admission, la pédagogie, le parcours étudiant, la carrière des professeurs. À ses yeux, cette compréhension permet de mieux informer les élus, les hauts fonctionnaires et les dirigeants des établissements qui orientent tout le système. Démondialisation et déstructuration. Olivier Bégin-Caouette s'inquiète de la montée actuelle du protectionnisme économique et du populisme qui, selon lui, heurte de plein fouet le développement de l'enseignement supérieur et remet en question sa nature même. La science a toujours été très mondialisée, explique-t-il, et cela s'accélère depuis une quarantaine d'années. Il donne, pour exemple, le développement fulgurant des copublications d'articles entre auteurs de différents pays. Le vaccin anti-COVID s'est développé très vite grâce à la recherche publiée en libre accès. Il cite également le cas de l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire, mieux connue sous l'acronyme de CERN, qui a permis de créer une infrastructure de recherche unique qu'aucun pays seul n'aurait pu se permettre. Ce qui est beau en science, c'est l'effet multiplicateur de la collaboration et de la coopération sur les ressources, les projets et les résultats, dit Olivier Bégin-Caouette. Or, plusieurs chercheurs en matière d'enseignement supérieur notent actuellement la montée d'un mouvement de démondialisation et de déstructuration. Ce n'est pas encore théorisé, mais on mesure des diminutions dans les proportions d'étudiants étrangers, les flux de mobilité étudiante, le nombre d'articles co-signés. Le parallèle avec le protectionnisme économique est évident. Le Royaume-Uni a été le premier pays frappé de plein fouet à travers le Brexit qui a détaché d'un coup presque toutes les universités britanniques des réseaux européens d'enseignement supérieur. Les Britanniques essaient de rebâtir ça, mais ça n'est pas facile. La collaboration universitaire entre les deux superpuissances de la recherche, la Chine et les États-Unis, décline. L'administration américaine menace de révoquer les visas d'étudiants étrangers en représailles contre les universités qui ne soutiennent pas ces thèses. Il note aussi la même tendance au Québec et au Canada, où, depuis peu, on a commencé à associer les étudiants internationaux à des immigrants. À tort ou à raison, ça s'exprime par la pression qu'ils exerceraient sur notre régime social. Selon Simon Morganson, professeur en enseignement supérieur à Oxford, on assisterait donc à une première phase de démondialisation dans l'enseignement supérieur. Je fais partie des quelques chercheurs qui font le lien avec la montée de mouvements populistes opposés à une perspective mondialiste. Peut-être que ça n'est qu'une bulle, mais j'ai du mal à croire qu'on n'est pas devant un mouvement plus profond qui aura des conséquences importantes sur l'enseignement supérieur. Conclut Olivier Bégin-Caouette. C'était quand l'enseignement supérieur devient sujet de recherche. Un texte de Jean-Benoît Nadeau, paru le 24 janvier 2026 dans Le Devoir.
Donalda Charron, l'allumetière syndicaliste. Un texte de Kathleen Durocher, paru le 31 mars 2026 dans La Presse. Beaucoup de Québécois ont changé le cours de l'histoire, même si la plupart restent méconnus. La Presse s'attarde donc à l'occasion à une personnalité qui a façonné le Québec. Aujourd'hui, Donalda Charron, 1886-1967, première femme présidente d'un syndicat au Québec. Rapide et répétitif, le travail d'empacteuse d'allumettes à la E.B. Eddy Company de Hull est synonyme de danger et de maigre salaire entre 1854 et 1928. Dans cette ville industrielle voisine de la capitale fédérale, des centaines de femmes s'empresse de mettre en boîte des milliers d'allumettes pendant plus d'une dizaine d'heures chaque jour de travail. Ces travailleuses, dont la plupart sont âgées de 15 à 17 ans et d'origine canadienne-française, sont exclues des mouvements syndicaux au tournant du 20e siècle. S'inspirant de l'union de leurs collègues masculins et chapeautés par l'Association ouvrière de Hull et les Oblats de Marie-Immaculée, le syndicat des allumettières voit finalement le jour en 1918. Les allumettières et leur organisation tombent largement dans l'oubli après le déménagement de la manufacture aidée de Hull en 1928. Parmi celles-ci se trouve Donalda Charon, surnommée parfois la gendarme du syndicat. Donalda Charon naît le 29 août 1886 à Pointe-Gatineau. Elle perd sa mère alors qu'elle n'a que 9 ans et est principalement élevée par sa grand-mère paternelle, comme ses 6 frères et sœurs. Confrontée à cette situation précaire, Donalda doit rapidement trouver un travail pour subvenir aux besoins de sa famille. Jeune adolescente, elle sera employée dans l'industrie du mica pendant quelques années avant que l'atelier ferme ses portes. Donalda Charon s'établit par la suite dans l'île de Hull, se faisant logeuse chez son frère et devient empaqueteuse dans la fabrique d'allumettes Eddy. Grâce à sa force de caractère et à sa capacité à faire régner l'ordre dans les départements féminins, elle est promptement promue au poste de contre-maîtresse. Dans la mi-trentaine et toujours célibataire, Donalda se voit imposer l'étiquette de vieille fille et revêt le rôle de protectrice de la morale des jeunes ouvrières sous sa responsabilité, mais également de négociatrice auprès des surintendants de la fabrique. En 1922, Donalda devient présidente de la section A du syndicat des allumettières. Il faut dire que l'organisation avait grandi et gagné en crédibilité depuis sa création 4 ans plus tôt. En décembre 1919, les quelques 200 ouvrières syndiquées avaient remporté une victoire contre leur employeur au lendemain d'une courte grève de 3 jours. Depuis, les travailleuses ont obtenu plusieurs gains en matière de salaire et de conditions de travail. Les bons coups du syndicat, ainsi que l'Association ouvrière catholique féminine de Hull, qui rassemble les différents syndicats féminins de la ville, ont valu aux allumettières une certaine notoriété locale et parmi les défenseurs et défenseuses du syndicalisme confessionnel au Québec. Baisse de salaire radicale. À l'été 1924, les profits de la compagnie aidée sont affectés par une baisse de la demande d'allumettes et d'autres produits manufacturés dans ces diverses installations. Conséquemment, le patronat prend la décision d'imposer une baisse de salaire à la vaste majorité de sa main-d'œuvre au début du mois de septembre. Les allumettières voient leur salaire réduit de 40 % Sans attendre, elles se mobilisent. Dans les jours qui suivent, leur syndicat entame une première ronde de négociations. Alors qu'aucune femme n'avait eu de mandat de négociation lors de la grève de 1919, la situation a changé près de 5 ans plus tard. Donalda Charon, présidente du syndicat, est de la partie aux côtés de délégués masculins et de l'aumônier du syndicat, l'oblat Joseph Bonhomme. Or, la IBED décide de fermer les portes de la fabrique et déclenche un lock-out en septembre. Donalda et les syndiqués se mobilisent et déclenchent une grève. En novembre, Donalda Charon et le reste du contingent syndical tentent de mettre fin au conflit. L'hiver approche et les caisses de l'organisation se vident rapidement. Finalement, le 20 novembre, une entente est signée, mais la paix n'est que de courte durée. Une semaine plus tard, Donalda Charon et les autres contre-maîtresses impliquées au sein du syndicat sont mises à pied. Le même sort attend les allumettières qui refusent de quitter les rangs de leur organisation. Le conflit reprend de plus belle, mais l'effort de grève s'essouffle et l'appui populaire se dissipe. L'entreprise en sort victorieuse, ayant réussi à faire durer le conflit de travail aussi longtemps. Sans travail, l'ancienne allumetière poursuit son implication syndicale. Elle sera vice-présidente du Conseil central des syndicats féminins de Hull en 1929, pour ensuite devenir secrétaire générale de l'organisation l'année suivante. Au cours des années 1930, Donalda est directrice des cours du soir offerts par l'Association ouvrière de Hull aux syndiqués de la ville désirant suivre des leçons de français, d'anglais, de cuisine, de couture ou encore d'économie ménagère. Sous Donalda Charron, plus de 900 femmes et adolescentes recevront cette éducation complémentaire. On connaît peu de choses du reste de la vie de Donalda Charron. Au moment de sa mort en 1967, elle réside à Hull, toujours célibataire, et son militantisme syndical des années 1920 et 1930 semble complètement oublié. Pourtant, cette syndicaliste engagée fera progressivement sa place dans la mémoire collective des décennies plus tard, allant jusqu'à être désignée personnage historique en vertu de la loi sur le patrimoine culturel en novembre 2024. Trois moments marquants. Automne 1924. Lockout et grève se succèdent à la fabrique d'allumettes E.B. Eddy de Hull. Employé de l'entreprise depuis le milieu des années 1910, Donalda Charron est au cœur des négociations pour améliorer le sort des allumetières. Année 1930. Donalda Charron fait sa marque comme secrétaire générale du Conseil central des syndicats féminins de Hull et met sur pied une série de cours du soir destinés aux travailleurs syndiqués de la ville, jetant les bases de groupes d'éducation populaire. 28 novembre 2024, 100 ans après la grève des allumetières, la gendarme du syndicat est désignée personnage historique par le gouvernement du Québec. Une bibliothèque publique de Gatineau a aussi été nommée en son honneur en 2019. C'était Donalda Charron, l'allumetière syndicaliste, un texte de Kathleen Durocher, paru le 31 mars 2026 dans La Presse.